France Inter. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Questions politiques. Au lendemain de la marche à Lyon, en hommage aux militants d'extrême droite radicale Quentin Derenc, qu'on s'interroge ce midi sur les conséquences politiques. Est-on à un point de bascule ? En tout cas, la pression est maximale sur la France insoumise, mais on entend aussi certains s'inquiéter que l'on puisse renvoyer à dos LFI et le Rassemblement National. Et les réactions dépassent les frontières avec des posts sur les réseaux de la dirigeante italienne Giorgia Meloni, mais aussi de l'administration Trump. Est-ce de la solidarité ? Ou de l'ingérence dans la vie politique française. Nous en parlons ce dimanche avec notre invité de cela et bien sûr du coup de tonnerre après la décision de la Cour suprême américaine sur les droits de douane de Donald Trump. Le ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot est en direct sur France Inter, France Info, le canal 16 de la télévision, une émission en partenariat avec le journal Le Monde. Nous sommes ensemble jusqu'à 13h.
France Inter. Questions politiques. Alexandra Ben Saïd.
Bonjour et bienvenue Jean-Noël Barrot.
Bonjour Alexandra Ben Saïd.
Merci d'avoir accepté notre invitation. À mes côtés pour vous interviewer, je les salue, Alix Bouillaguet de France Télévisions. Bonjour Alix.
Bonjour Alexandra.
Avec vous tout à l'heure, on fera un portrait fouillé de Jean-Noël Barrot.
Oui, parce que Jean-Noël Barrot, rien ne vous prédestine à devenir ministre des Affaires étrangères. On va essayer d'en savoir plus sur votre style, sur vos références, mais aussi sur vos ambitions politiques.
Françoise Fressos du journal Le Monde est également sur ce plateau. Bonjour Françoise.
Bonjour à toutes et à tous.
Alors avec vous, on va se projeter vers 12h50 en 2027. Une question qui animera les débats de la campagne présidentielle ce midi.
Que pèse encore la France dans le nouvel ordre mondial imposé par Donald Trump ? Emmanuel Macron a beau se démultiplier, multiplier les initiatives sur toute la scène mondiale. Une vraie doute existe, la crainte d'une marginalisation est là.
On se retrouve tout à l'heure, Françoise, pour cette séquence France 2027. Mais d'abord, Jean-Noël Barrot. 5 minutes entre quatre yeux au sujet de la marche à Lyon, hier, en hommage à Quentin Derenc, battu à mort par des militants d'ultra-gauche. On a vu les images de ce rassemblement, des groupuscules d'ultra-droite, des jeunes masqués mélangés à quelques familles, un dispositif de sécurité massif, aucune grande figure politique, la famille n'y participait pas, voilà pour la photo. La préfecture du Rhône a annoncé qu'elle compte saisir la justice au sujet de saluts nazis ainsi que d'insultes racistes et homophobes pendant l'hommage. Jean-Noël Barrot, comment est-ce que vous qualifiez ce que l'on vit depuis une semaine ? Est-on dans le paysage politique à un moment de bascule ?
Je condamne évidemment les signes, les saluts nazis qui ont été observés hier lors de la manifestation, et la préfecture du Rhône a eu raison de saisir la justice à leur sujet. Est-ce que nous vivons dans un moment de bascule ? Ce qui est clair, c'est que la question de la violence et du civisme est aujourd'hui posée. Et nous avons eu cette semaine, à la suite de ce drame qui touche la communauté nationale, qui a endeuillé une famille française, des débats qui portaient, à mon sens, sur la responsabilité ou l'irresponsabilité de certaines forces politiques qui, par leurs discours, par leurs ambiguïtés, par leur manque de clarté, créent un terreau propice au développement d'autres propos et parfois au passage à l'acte.
À qui pensez-vous ? Jean-Noël Barrot.
Mais je crois, pardonnez-moi Alexandra Ben Saïd, ce débat a eu lieu. Mais je crois, comme le Premier ministre l'a dit, avec beaucoup de sagesse, que cette irresponsabilité de certaines forces politiques aux extrêmes de l'échiquier politique français ne doit pas éclipser la responsabilité civique individuelle. Ce qui fait la grandeur d'un pays et même d'une civilisation, c'est sa capacité à repousser, à rejeter la violence, et cela dépend de la capacité de chacun de ses membres
Sébastien
à s'opposer.
Sébastien Lecornu a dit que la France insoumise devait faire le ménage dans ses rangs. C'est cela que vous ne nommez pas ce midi, mais c'est cela que vous êtes, dont vous êtes en train
en
de parler.
En l'occurrence,
c'est la France insoumise que vous visez.
Ce drame provient d'un acte de violence inouï, motivé sans doute par des convictions d'extrême-gauche, mais l'extrême-droite n'est pas étrangère à des violences qui ont endeuillé la communauté nationale par le passé. Tout acte de violence, d'où qu'il vienne, est inacceptable. Mais ce que je veux dire par là, c'est que nous avons la responsabilité individuelle de tout faire pour refuser la violence, quelle qu'elle soit, dans les mots et dans les actes. Et si nous formons ensemble un cordon sanitaire pour endiguer et contenir la violence, nous parviendrons à ne lui laisser aucun oxygène pour pouvoir prospérer. Quelle est la responsabilité ?
Jean-Noël Barrot.
Quelle est la responsabilité de la puissance publique pour nous parvenir à contenir la violence ? Eh bien, c'est d'abord, évidemment, de donner tous les moyens aux instruments de la République, la justice et la police, de qualifier et de sanctionner les faits lorsque ils sont établis. Mais c'est aussi de former des citoyens qui, en responsabilité, demain, parviendront par leur décision, par leur posture, à rejeter la violence d'où qu'elle vienne.
Emmanuel
et ça veut
Macron
dire la famille, ça veut dire l'école, ça veut dire le démantèlement des réseaux sociaux tels qu'ils existent aujourd'hui et qui servent pour notre jeunesse de caisse de radicalisation ou de radicalité en tout cas et de caisse de polarisation.
Emmanuel Macron a annoncé une réunion la semaine prochaine pour discuter des groupes d'action violente avec les ministres concernés. Il dit il n'y a pas de place pour les ministres d'où qu'elles viennent, il faut être totalement intraitable. Est-ce qu'on n'est pas assez intraitable aujourd'hui avec ces groupuscules ? Est-ce que c'est cela dont il s'agit ?
Il faut en tout cas tirer les leçons chaque fois qu'un acte de violence comme celui qu'on a observé, qui a beaucoup choqué dans les images qui ont été diffusées, les Françaises et les Français, tirer toutes les leçons pour donner les moyens à la justice, à la police, mais aussi pour en tirer les leçons, comme je le disais, pour restaurer le civisme qui est indispensable pour que la violence reflue.
Vous avez sans doute lu ce poste d'un ancien ministre des Affaires étrangères. La France traverse un moment de Charlie Kirk, c'est ce qu'a écrit Dominique de Villepin sur X. Il fait donc référence à ce militant d'extrême droite américain, assassiné par un homme se revendiquant de l'antifascisme. Donald Trump et ses partisans, vous le savez, Jean-Noël Barrot, ont tenté d'en rendre responsable l'opposition démocrate. Dominique de Villepin fait donc un parallèle et il explique qu'il refuse la symétrie des violences entre gauche et droite. Il dénonce une diabolisation de LFI qui prépare la prise de pouvoir de l'extrême droite. Dominique de Villepin, ça n'est pas un insoumis. Là, il tire un signal d'alarme sur ce qui est en train de se passer. Est-ce que vous l'entendez ?
Je n'ai aucune complaisance avec le discours de la France insoumise que je condamne et que j'attaque régulièrement sur les sujets internationaux, encore la semaine dernière ou cette semaine, à l'Assemblée nationale. Ceci étant dit, il faut se garder, ici comme ailleurs, de toute instrumentalisation à des fins politiques de ce drame. Il faut s'interroger sur l'époque que nous vivons, la place que nous laissons à la violence. Et je crois que le constat est clair, c'est que nous avons laissé s'introduire où nous sommes habitués à une forme d'ambiguïté, à une forme d'acceptation, de tolérance, de la violence, pas toujours par les actes, mais y compris dans les paroles. C'est pourquoi je parlais des familles, je parlais de l'école, je parle aussi des réseaux sociaux qui nous ont imposé une grammaire de la violence et de la radicalité. Il nous faut à tout prix reprendre le contrôle pour pouvoir rejeter la violence. La violence, il y en a toujours eu. L'objectif, quand on s'engage, quand on est militant politique et démocrate, alors, c'est mon cas, eh bien, c'est de faire en sorte que la violence, toujours et partout, reflue.
Cette violence, Jean-Noël Barrot, elle a été observée à l'étranger. Jeudi, sur les réseaux sociaux, l'administration américaine a dénoncé, justement, la violence de l'extrême gauche, une menace pour la sécurité publique, est-il écrit dans ce poste que l'ambassade des États-Unis en France a traduit et relayé. Est-ce qu'à la demande du chef de l'État, vous allez bien convoquer l'ambassadeur Charles Kushner ?
Oui, nous allons convoquer l'ambassadeur des États-Unis en France, puisque l'ambassade des États-Unis en France a fait un commentaire sur ce drame dont je rappelais tout à l'heure qu'il concerne la communauté nationale. Nous refusons toute instrumentalisation de ce drame qui endeuille une famille française à des fins politiques. Nous n'avons aucune leçon, s'agissant de la violence en particulier, à recevoir de l'international réactionnaire. Et les analyses de la vie politique, la place qui occupe la violence et des violences plus généralement, nous nous les servons nous-mêmes avec assez de verve et nous ne permettons pas que d'autres nous les servent.
Ça ne sera pas la première fois que vous recevrez Charles Kushner.
Non, bien évidemment, nous avons beaucoup de sujets à aborder avec
États-Unis. Non, mais pour le que vous le convoquez.
Y compris, vous le savez, le sort qui a été réservé à un juge français de la Cour pénale internationale, à un ancien ministre, ancien vice-président de la Commission européenne français, Thierry Breton, tous deux ciblés par des sanctions américaines qui sont injustifiées et injustifiées.
Emmanuel Macron a écrit une lettre à ce sujet à Donald Trump pour expliquer justement que c'était injustifié. Est-ce que vous pensez que Charles Kushner va vous apporter des réponses ? Est-ce qu'il y a déjà eu un accusé de réception à Washington à cette lettre ?
Je lui dis en tout cas que s'agissant du juge français, Nicolas Guillou, les sanctions dont il fait l'objet sont une atteinte à l'indépendance de la justice internationale, et s'agissant de Thierry Breton, que les sanctions dont il, dont il fait l'objet sont une atteinte à l'autonomie décisionnelle de l'Union européenne, s'agissant tout particulièrement d'une régulation que la France a soutenue de toutes ses forces pour réguler les réseaux sociaux et qui n'a aucune portée, comme on dit, extraterritorial, c'est-à-dire qui ne concerne pas les États-Unis, mais uniquement l'Europe.
Il n'est pas le seul, l'administration Trump n'est pas la seule à avoir réagi. Il y a aussi un pays européen, l'Italie, Giorgia Meloni, qui vient du parti d'extrême droite Fratelli d'Italia. Sur les réseaux, s'est elle aussi dite choquée par la mort de Quentin Derenck. Et selon son entourage, Giorgia Meloni a été stupéfaite de la réaction d'Emmanuel Macron, qui a dit que chacun reste chez soi, les moutons seront bien gardés. Est-ce que là, Jean-Noël Barrot, c'est de la solidarité européenne ou c'est de l'ingérence de la part de l'Italie?
Mais si je file la métaphore agricole, puisque le Salon international de l'agriculture vient d'ouvrir ses portes, c'est la réponse du berger à la bergère. Et je crois que l'incident est clos. Ce que nous demandons simplement à nos partenaires et à nos amis, c'est de respecter un principe auquel nous nous tenons, pas d'ingérence dans nos affaires, et singulièrement pas dans un drame qui, une nouvelle fois, je le répète, touche d'abord la communauté nationale.
Allez, Jean-Noël Barrot, on ouvre la conversation avec les questions d'Alix Bouillaguet et de Françoise Fressoz et cet événement majeur aux États-Unis qui concerne toute la planète. La Cour suprême américaine a déclaré que les taxes supplémentaires, les fameux droits de douane réciproques, ainsi que Donald Trump les a appelés, étaient en fait illégales.
The Supreme Court's ruling on tariffs is deeply disappointing and I'm ashamed of certain members of the court. Absolutely ashamed for not having the courage to do what's right for our country.
Je traduis Donald Trump. Le jugement de la Cour suprême sur les droits de douane est profondément décevant, dit le chef de l'État américain. J'ai honte de certains membres de la Cour qui ne font pas ce qu'il faut pour notre pays. Question de Françoise Fressoz.
Que vont faire la France et les entreprises françaises? Est-ce qu'elles vont demander un remboursement des droits de douane qui avaient été imposés? Quelle est votre position?
D'abord, si vous me permettez de qualifier cette nouvelle, qu'on ne peut pas qualifier de mauvaise nouvelle. Pourquoi ? Eh bien parce que les droits de douane, c'est d'abord un impôt sur les foyers et sur les entreprises américaines. C'est d'ailleurs les entreprises américaines qui avaient attaqué cette décision du président des États-Unis devant la Cour suprême qui leur donne raison. Et force est de constater que les études dont on dispose aujourd'hui montrent que c'est bien en grande partie les ménages américains, les Américains eux-mêmes, qui ont payé la facture.
Bon, mais nous, on est quand même aussi impactés.
Et que le déficit commercial américain ne s'est pas résorbé. Donc, difficile de qualifier cette décision de la Cour suprême de mauvaise nouvelle. Maintenant, le président des États-Unis a annoncé une nouvelle vague de droits de douane. 10%, puis 15% dans la nuit. Nous allons analyser l'impact potentiel de telles décisions sur l'économie européenne. Nous allons essayer de comprendre si cela signifie que l'accord qui avait été trouvé par la Commission européenne et les États-Unis, vous vous en souvenez, dans un golfe écossais, est toujours valable. Il est permis d'en douter. Et nous allons prendre les mesures pour répondre.
Des mesures en France ou des mesures en Union européenne négociées, concertées?
Vous savez que c'est la Commission européenne qui négocie au nom de la France et des autres pays de l'Union européenne les accords commerciaux. Mais rien n'empêche la France de donner son avis, ce que nous ne nous priverons pas de faire.
Mais est-ce que ça veut dire que cette décision, elle va donner la possibilité aux partenaires des États-Unis de renégocier ces accords signés, notamment pour l'Union européenne? Est-ce que, en clair, on a un coup à jouer?
De toute évidence, il y a quelque chose à réécrire, à reconstruire. Je le dis, entre deux partenaires commerciaux de premier plan, l'Union européenne et les États-Unis, aucun ne peut sortir gagnant de guerre commerciale. Donc peut-être qu'on peut reprendre sur une feuille blanche, ou en tout cas reprendre les éléments.
Vous êtes optimiste, hein, parce que là on voit plutôt l'escalade du côté de Donald
Trump. Mais si j'étais pessimiste, François Fressoz, je ne serais sans doute pas à la place que j'occupe aujourd'hui. Ce que je dis simplement, c'est que de toute évidence, quelque chose doit être repris. Ensuite, la France n'est pas seule décisionnaire. Le Parlement européen, qui s'apprêtait à avaliser la semaine prochaine l'accord de Turnberry, celui qui avait été trouvé en août dans un golfe écossais, va lui aussi se poser des questions.
Est-ce
bref,
que pensez...
tout le monde va se poser des questions. Et dans ce moment d'interrogation européen,
il faut
une
sortir.
Position unie. Et dès demain, je serai pour ma part à Bruxelles, je ferai un certain nombre de propositions sur la balle des éléments que j'ai.
Est-ce que vous pensez qu'il faut reporter la ratification de cet accord commercial?
La question était... la question s'était déjà posée, vous vous souvenez, puisque c'est la combinaison de la position très forte de la France, mais aussi celle du Parlement européen qui a remis en question cet accord, qui a sans doute amené l'administration américaine à revenir sur ses prétentions telles qu'elles étaient exprimées sur le Groenland. Donc les parlementaires européens étaient encore en train de débattre de cette question-là. Évidemment, ces informations récentes, même si je le dis, il faut se garder de prendre des conclusions hâtives.
Jean-Noël Barrot, mais vous ne dites pas quelles sont vos recommandations.
Mais non, parce que là, j'attends d'avoir les analyses. Mais j'aurais l'air de quoi si d'ores et déjà je prenais des recommandations sans avoir une analyse détaillée de l'impact sur les filières françaises, j'aurais l'air de quoi?
On sent la fermeté quand même.
Il faut toujours faire preuve de fermeté dans ces affaires. Ce sont les intérêts français, mais aussi les intérêts de l'Europe.
Sauf que Donald Trump, la fermeté, souvent, il passe outre. Hein. C'est pas son sujet, la fermeté.
Non, mais regardez.
Autres, hein.
Oui, mais regardez ce qui s'est passé. Quand la Cour suprême a annoncé sa décision, est-ce que vous avez observé ce qui s'est passé? Les marchés boursiers américains ont rebondi, comme pour saluer la décision de la Cour suprême. Et c'est bien que, quelque part, l'intérêt américain lui-même est en jeu. Dans
et ça, le fait que justement la croissance des ménages soit en train de s'effondrer aux États-Unis, Donald Trump a été élu sur l'équation la vie moins chère, est-ce que ça peut être... Est-ce que le président américain peut peut-être changer d'avis sur ses droits de douane?
Bon, j'ai dit tout à l'heure qu'il ne fallait pas faire d'ingérence chez les autres, je ne vais pas en faire moi-même, mais ce que je constate, c'est que nous sommes deux économies très interconnectées. L'économie américaine a un besoin vital de l'économie européenne. Les géants du numérique font la moitié de leurs profits en Europe. Et l'épargne européenne finance très largement les entreprises américaines et leurs déficits.
Donc, là, vous pensez à l'instrument anti-rétorsion. Vous dites qu'on aurait les armes pour tenir
qu'il y a
la marge haute aux États-Unis.
Une guerre commerciale entre les États-Unis et l'Europe ne peut avoir aucun effet positif bénéfique pour l'économie américaine. Et donc, espérons que sur cette base-là, on puisse conclure des accords équilibrés.
Est-ce que vous pensez que tous les pays ont été très prudents? Et vous êtes encore ce midi très prudent, Jean-Noël Barrot.
Mais parce que j'ai pas encore les chiffres.
Et les chiffres de quels chiffres précisément?
Quelle filière? Vous voyez, on avait un accord tricoté. Alors nous, on a dit que c'était une première étape, que c'était sans doute pas tout à fait encore équilibré. Mais chaque filière, il y avait une sorte de taux général, mais chaque filière avait des traitements particuliers. Tout cet édifice, avec la décision de la Cour suprême, s'effondre. Et les décisions qui suivent du président américain, c'est de dire je vais mettre 10 ou 15% partout.
Pendant 5 mois.
Il faut voir pendant 5 mois, quelles sont les filières qui gagnent, qui perdent, qu'est-ce qui se passe après les 5 mois. C'est tout ça qu'il faut bien analyser avant de prendre des décisions.
Donald Trump qui avait dit, c'était pendant sa campagne en 2023, que s'il était élu, il pourrait arrêter le conflit en Ukraine en 24 heures. Et pourtant, mardi, l'Ukraine entrera dans sa 5e année de conflit depuis l'invasion de la Russie. Dans un entretien vendredi à l'AFP, Volodymyr Zelensky affirme que l'armée de Kiev a libéré 300 km² dans le sud du pays. Vous dites vous le confirmez cette information?
Mais non seulement l'armée ukrainienne vient dans un geste d'un panache et d'un courage inouï de libérer 300 km², mais rendons-nous compte qu'après 4 ans, le bilan de Vladimir Poutine, c'est un échec cuisant et humiliant.
Un échec cuisant, il est quand même...
Mais non, aujourd'hui, la Russie contrôle la moitié des territoires qu'elle occupait illégalement au printemps d'il y a 4 ans. La Russie a perdu plus d'un million, ou a accusé plus d'un million de pertes humaines dans cette guerre, c'est-à-dire plus que l'ensemble des pertes soviétiques et russes depuis 1945. Et aujourd'hui, c'est 1000 soldats russes qui sont tués sur le front pour des gains qui sont microscopiques. Et quand je dis des soldats, je suis aimable, parce que vos confrères des journaux indépendants russes et ukrainiens ont démontré que ce que l'on trouve sur le front, ce sont des mercenaires et des repris de justice, et que parmi ces 1000 pertes humaines russes sur le front, il y en a un nombre considérable qui sont provoquées par la Russie elle-même, par des assassinats. Des chefs militaires russes contre les soldats russes.
Mais nous disant cela, est-ce que ça veut dire que vous croyez que la Russie ne pourra pas soutenir longtemps cet effort et que ça lui coûte trop cher?
On n'a pas cette impression-là. Mais ça lui coûte très cher. La Russie va entrer en récession. Les caisses de la Russie sont vides. L'essence est rationnée dans un grand nombre de régions russes. Et maintenant, ce sont les télécommunications, les communications, les applications qui sont bloquées. Voyez où en est réduite la Russie.
Mais Vladimir Poutine, on a le sentiment qu'il a le temps devant lui.
Je crois que le temps joue contre Vladimir Poutine et que si les communications sont coupées ou si une décision a été prise de bloquer les communications en Russie, c'est que l'ambiance, l'atmosphère politique en Russie ne va pas si bien que cela. Et il y a une raison simple, c'est que Vladimir Poutine est en train de ruiner et de discréditer la Russie. Et c'est une honte et ça doit cesser.
Selon l'Express, le chef de la cellule diplomatique de l'Élysée, Emmanuel Bonne, a rencontré le 3 février dernier, c'est-à-dire il y a deux semaines, Youri Outchakov, hein, c'est le conseiller diplomatique de Vladimir Poutine. Est-ce que, d'abord, vous pouvez nous confirmer cette information? Est-ce qu'il s'agit aussi, avec cette rencontre, de préparer une rencontre ou un échange entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine?
Bon, la France n'a jamais exclu par principe d'avoir des contacts avec la Russie, en transparence avec nos partenaires et amis ukrainiens, et à condition que ça soit utile.
Ça fait trois ans qu'on ne lui a pas parlé.
Oui, mais à condition que ce soit utile.
Vous nous confirmez que cet échange, cette rencontre a eu lieu ?
À condition que cela soit utile. Et pourquoi c'est utile ? Et pourquoi ça peut être utile dans le moment que nous vivons ?
Non, mais que ça soit utile, mais est-ce qu'elle a eu lieu déjà ?
Pourquoi ça peut être utile dans le moment que nous vivons ?
Pas de réponse.
Tout simplement parce que l'Europe est devenue le premier soutien de l'Ukraine, sans aucune comparaison possible. Le premier soutien financier, le premier soutien militaire. Et qu'il est donc normal que l'Europe puisse disposer d'un canal indépendant de contact avec la Russie sans avoir à dépendre des autres.
Donc vous avez ce canal indépendant, est-ce qu'il s'agit bien là de préparer une rencontre, un échange entre Vladimir Poutine et Emmanuel Macron? On a le sentiment qu'Emmanuel Macron dit aujourd'hui, oui, il faut reprendre le dialogue avec les Russes.
Je le redis, d'abord, il y a eu un échange entre le président de la République et Vladimir Poutine l'été dernier, vous vous en souvenez. Il y a des contacts entre diplomates, ça n'est pas nouveau. Il y a une ambassade ici, il y a une ambassade là-bas. La raison pour laquelle des contacts indépendants européens peuvent être utiles aujourd'hui, c'est que je le redis. D'abord, c'est notre sécurité qui se joue dans le règlement de cette crise. Et par ailleurs, aujourd'hui, nous sommes les principaux soutiens de l'Ukraine. Et donc, il est important que nos messages puissent être entendus, mais qu'on puisse entendre aussi là où en est l'administration du Kremlin.
Alors, attendez, la France se met beaucoup en avant, mais quand on regarde en pourcentage du PIB l'aide apportée à l'Ukraine, on n'est pas si bon que ça, en fait. Hein. Le Danemark nous précède, la Lituanie, la Lettonie. Est-ce qu'on a vraiment les moyens de nos ambitions pesées pour essayer de régler ce conflit?
Alors, d'abord, notre soutien à l'Ukraine, il ne se limite pas, mais j'y reviendrai, à nos efforts budgétaires nationaux. C'est le prêt de 90 milliards d'euros qui vient d'être agréé au niveau européen et qui permet, disons-le, au moment où les caisses se vident en Russie, à l'Ukraine d'aborder les deux prochaines années sans soucis financiers. C'est ensuite la coalition des volontaires, dont le président de la République est à l'initiative et qui est un exemple sans équivalent dans notre histoire récente depuis des décennies, de mise en commun à l'extérieur de l'OTAN, en coopération avec l'OTAN, des forces ou des capacités militaires de plus de 30 pays pour pouvoir nous assurer que la paix, une fois conclue, soit véritablement garantie. Ensuite, sur le plan budgétaire, nous avons fait beaucoup depuis le début de la guerre. Nous avons d'ailleurs cette semaine annoncé le deuxième volet d'un fonds, 71 millions d'euros, qui permet aux entreprises françaises, des infrastructures, de l'eau, de l'énergie, etc., d'aller développer des projets en fonction des besoins ukrainiens. Donc nous continuons, au fil de l'eau, dans le domaine militaire, dans le domaine civil, dans le domaine humanitaire aussi, à apporter de l'aide au niveau national. Mais disons-le, et on y reviendra sans doute sur le dernier point, la place de la France 2027, etc., notre capacité à peser à l'extérieur dépend de notre force intérieure et des décisions courageuses que nous aurons à prendre.
Alors justement, Jean-Noël Barrot, on a entendu cette semaine des reproches inhabituellement sévères de la Pologne et de l'Allemagne sur nos dépenses d'armement plus globales. Le chef de la diplomatie allemande dit que les efforts de Paris pour la défense sont insuffisants. En clair, Paris parle beaucoup de souveraineté, mais n'augmente pas assez vite son budget de défense. Qu'est-ce que vous leur répondez à la Pologne et à l'Allemagne?
Je dis que, étant donné l'ampleur des défis et des transformations que nous vivons aujourd'hui, il est normal qu'avec nos plus proches partenaires, puisque vous savez que l'Allemagne et la Pologne sont des partenaires très proches.
Le triangle de Weimar.
Exactement. Nous avons même ce groupe que nous formons tous les trois, qu'on appelle le triangle de Weimar, au sein duquel nous nous coordonnons étroitement. Et donc, il est normal d'avoir des divergences. L'important, c'est que nous puissions parler des débats et le dialogue, aplanir ces divergences et faire des convergences.
Là,
et
c'était sévère. Le triangle de Weimar, il a un petit coup d'aile.
Mais c'est normal d'avoir de temps en temps des débats entre amis. Tout le monde en a. C'est normal. À condition, bien sûr, de pouvoir
de
converger.
De rester amis.
Mais les débats, ils doivent se faire sur la base, disons-le, de la clarté, de la vérité. Et quelle est la vérité des chiffres ? Eh bien, c'est que aucun pays de l'Union européenne n'a dépensé autant que la France pour sa défense depuis la Seconde Guerre mondiale. Aucun.
Donc ils mentent, en fait. L'Allemagne ment. L'Allemagne ne dit pas la vérité, la Pologne non plus.
L'Allemagne et la Pologne se sont appropriés une idée que le président de la République a beaucoup promue depuis 10 ans, qui est celle de la souveraineté, de l'autonomie stratégique appliquée désormais à leur défense, puisqu'ils voient bien, comme nous le voyons, la menace augmenter sur notre flanc oriental, à l'est de l'Europe, mais aussi ailleurs dans le monde, et ils voient bien que le principal partenaire ou allié dans l'OTAN est en train de faire un pivot et de réduire son niveau d'engagement. Et donc ils disent, il faut vraiment que j'accélère et que je me dote de mes propres capacités. Mais nous répondons que, pour ce qui nous concerne, ça fait depuis la Seconde Guerre mondiale qu'on s'y prépare, en ayant fait non seulement le choix d'être fort, mais aussi un choix qui est essentiel, qui est celui de l'indépendance. L'indépendance de notre dissuasion nucléaire, l'indépendance de nos forces armées. Et cette indépendance aujourd'hui, qui est un vrai modèle que le monde entier nous envie, eh bien nous devons pouvoir en faire un exemple pour l'Europe. Ce que nous voulons, c'est que l'Europe demain soit aussi forte que la France aujourd'hui. Mais pour ça, il faut s'appuyer sur la vérité historique et la vérité des chiffres.
C'est de la conviction. Françoise Fressoz, une question sur l'autre sujet qui fâche entre Berlin et Paris.
L'avion de combat du futur, c'était un projet emblématique de la défense européenne. Il a été lancé en 2017. 9 ans plus tard, le chancelier Merz doute en public du besoin pour l'Allemagne d'avoir le même avion de combat que défend la France. L'industriel Airbus évoque déjà une autre solution entre deux avions. Est-ce que le SCAF est enterré ou est-ce que vous pensez qu'on peut encore le défendre ?
C'est un projet essentiel pour la sécurité
pour
de la
France peut-être.
Pour la sécurité de l'Allemagne et la sécurité de l'Europe. Ça fait 8 ans qu'on y travaille et on se battra jusqu'au bout pour qu'il aboutisse, jusqu'à la dernière seconde.
Est-ce qu'on n'est pas les derniers à y croire à Paris ? Parce que quand le chancelier Merz évoque en public qu'il doute
Alexandra
de l'avenir
Ben-Saïd,
du SCAF...
Quand mon lointain prédécesseur, Robert Schuman, était le seul à nager à contre-courant en 1950, 5 ans après la Deuxième Guerre mondiale, où déjà on entendait le ressentiment monter partout, à Paris et en Allemagne, eh bien, il a proposé et il a réussi à faire aboutir un projet de coopération qui a apporté 8 décennies de paix et de prospérité à l'Europe. Pardon, mais si la France aujourd'hui renonce à créer avec l'Allemagne des projets de coopération qui nous engagent pour des décennies, eh bien alors nous trahissons
l'héritage des pères fondateurs. Qu'est-ce qui peut encore sauver cet avion ?
Eh bien, je crois qu'il faut que les industriels fassent un pas chacun dans la direction l'un de l'autre. Et je crois qu'il faut que nos responsables politiques, comme le président de la République, mais ça doit être le cas en France, mais ça doit être le cas en Allemagne, voient qu'il ne s'agit pas là simplement d'un projet d'équipement militaire, mais qu'il s'agit d'un projet politique, comme la communauté du charbon et de l'acier, la communauté européenne, était avant tout un projet politique. Ça n'était pas que pour le charbon et pour l'acier. C'était pour lier nos destins les uns aux autres et être ainsi plus forts pour affronter les défis et pour être aussi plus indépendants.
Jean-Noël Barrot, un nouvel exemple de l'ordre mondial selon Trump. Jeudi à Washington, le président américain a réuni pour la première fois son Conseil de la paix, censé aider à la reconstruction à Gaza et à résoudre les conflits armés dans le monde. Une question d'Alix Bouillaguet.
Bruxelles a dépêché une de ses commissaires à cette réunion avec pour mission d'évoquer uniquement le plan de paix et la reconstruction de Gaza. Sur Twitter, sur X, vous avez déclaré que la commission n'aurait jamais dû assister à cette réunion inaugurale. Pourquoi est-ce que c'est une erreur ?
Je ne veux pas faire toute l'émission sur Robert Schuman, mais les pères fondateurs de l'Union européenne en Italie, en France, en Allemagne, quand ils ont conçu ces institutions européennes qui sont aujourd'hui si décriées, ils l'ont fait avec un principe en tête, un principe fondamental et fondateur. Ce principe, c'est la subsidiarité. Chacun s'occupe de ses affaires. Et certaines affaires sont traitées au niveau européen parce que c'est plus efficace. D'autres le sont au niveau national parce que c'est là qu'elles doivent l'être. Et d'autres, enfin, doivent l'être au niveau local. Du local à l'européen, le pouvoir doit être exercé là où il peut l'être, avec le plus d'efficacité et de justice. Et quand la Commission européenne part assister à une réunion à Washington sans en avoir reçu le mandat des États membres, c'est-à-dire en violant en quelque sorte les règles qui partagent les pouvoirs entre les États membres et la Commission, eh bien c'est ma responsabilité de successeur de Robert Schuman, de le dire publiquement.
Mais concrètement, il va y avoir des sanctions, il va y avoir, je ne sais pas, une réunion pour justement dire qu'il y a eu un faux pas.
Là, vous accusez Ursula von der Leyen, en fait. Hein. Vous dites que la Commission décide, c'est Ursula von der Leyen.
C'est pas Ursula von der Leyen qui s'est rendue à Washington, c'est une commissaire.
Enfin, elle est la présidente
elle
de la Commission européenne.
Elle a pas pris de petites jambes, elle y allait toute seule, elle avait une petite idée en tête et sans doute qu'elle avait prévenu des gens au-dessus d'elle.
Vous aurez compris que je défends et défendrai l'Europe, la construction européenne, la souveraineté européenne. Mais dans un moment où les institutions sont si décriées, il est indispensable que les règles de droit, les règles d'équilibre entre les institutions européennes soient pleinement respectées.
Mais il va y avoir des sanctions enfin, pour cette commissaire qui est allée à cette réunion ?
Je ne peux pas vous faire l'analyse exhaustive des conséquences que peuvent entraîner une telle décision, mais en tout cas, ça ne doit jamais se reproduire.
Mais ce que vous décrivez, en tout cas, c'est une sacrée situation de crise pour l'Europe.
Mais je crois que la Commission a beaucoup à faire. Vous savez, il y a aujourd'hui, on a parlé des États-Unis, on a parlé de notre place dans le monde, mais tout ça dépend de notre force intérieure. C'est vrai pour la France, c'est vrai pour l'Europe. La Commission devrait se concentrer dans les 100 prochains jours à 100% sur l'unification et le renforcement du marché intérieur, pour qu'on se renforce à l'intérieur et pour qu'on puisse faire entendre notre voix sur tous les grands sujets, le commerce, l'Ukraine, le Moyen-Orient, le Soudan, la République démocratique du Congo, tous ces sujets. Si nous avons un marché intérieur encore plus fort, encore plus puissant, si nous donnons à nos entreprises les moyens de se développer et si nous devenons plus indépendants, nous serons beaucoup plus écoutés.
Des questions sur une autre partie du monde, l'Iran, Jean-Noël Barrot. De nouvelles manifestations étudiantes ont eu lieu hier à Téhéran et parce que les États-Unis ont quand même déployé un arsenal militaire impressionnant dans la région. Françoise ?
La France est-elle pour ou contre une intervention militaire américaine en Iran ?
La France considère qu'on ne change pas les régimes de l'extérieur et par la force. Cependant, la France suit avec évidemment beaucoup de préoccupations et d'attention ce qui se passe en Iran, en appelant d'abord à la fin définitive de la répression, à la libération des prisonniers politiques, à l'arrêt des exécutions, au rétablissement des moyens de communication et à un changement de posture radical de la part du régime vis-à-vis de son propre peuple.
Mais concrètement, qui mérite comment elle fait ? Qu'est-ce qu'elle fait là, en ce moment ?
La France a pris un certain nombre de décisions. Je sais que une actualité en chasse une autre, mais nous avons décidé et proposé un certain nombre de sanctions au niveau européen qui ont été adoptées il y a quelques jours. Nous avons soutenu l'inscription du Corps des gardiens de la Révolution sur la liste des organisations terroristes de l'Union européenne. Et nous sommes très attentifs à pouvoir apporter tout le soutien que nous pouvons au peuple iranien. Tout cela, nous le faisons en étant attentifs.
Le peuple iranien qui réclame une intervention américaine, d'une certaine manière.
Alors, les avis sont très partagés, puisque nous ne sommes pas les seuls à considérer que les interventions par la force ne produisent d'effets souhaitables ou désirables. Par ailleurs, nous sommes très attentifs également à nos intérêts directs. D'abord en Iran, nos agents, nos ressortissants, nos emprises, Cécile Kohler et Jacques Paris, qui sont encore en sécurité à l'ambassade de France, mais dont nous exigeons le retour en France et la libération définitive. Nous sommes aussi vigilants à nos ressortissants, nos agents, nos emprises dans la région, qui pourraient être entraînés dans une escalade extrêmement grave dans le cas où une intervention militaire interviendrait. Tout cela, ce sont des sujets qui nous mobilisent beaucoup ces derniers jours.
Parlons à présent d'une nouvelle polémique au sujet de la rapporteuse de l'ONU pour les territoires palestiniens, Francesca Albanese. Alors je cite ce que certains lui reprochent, elle est accusée d'avoir désigné Israël comme un ennemi commun de l'humanité. Francesca Albanese dément, elle dénonce une manipulation de ses propos. La semaine dernière, vous avez appelé à la démission de Madame Albanese, Jean-Noël Barrot. Mais dans une lettre ouverte mercredi, 150 personnalités, dont une majorité d'anciens diplomates néerlandais, il y a aussi d'anciens ministres grecs, argentins ou encore danois, affirment que la rapporteuse n'a pas qualifié Israël d'ennemi commun de l'humanité. Ils appellent donc, j'y arrive, le Quai d'Orsay à revenir sur les déclarations inexactes attribuées à Madame Albanese
et à les
rectifier publiquement.
Eh bien non, parce que d'abord, je n'ai pas dit que Madame Albanese avait dit qu'Israël, texto, était un ennemi commun de l'humanité. Reprenez mes propos, ils sont publics, ils étaient à l'Assemblée nationale. Donc, cette tribune, comme beaucoup d'autres d'ailleurs, se sont fondées sur une interprétation de mes propres propos.
Donc,
moi, ce que j'ai fait, parce que ces propos sont condamnables, je les ai condamnés, et qui s'ajoutent à une longue liste de provocations inacceptables, comme la justification, la relativisation du 7 octobre, pire massacre antisémite de notre histoire, au cours duquel 51 de nos compatriotes ont perdu la vie, et que je vais vous dire plus généralement ce qu'est ma philosophie.
Si ces propos n'ont pas été... Ces propos, donc, vous dites, ces propos sont condamnables, mais ils n'ont pas été prononcés. Moi, j'ai du mal, je suis un petit peu perdu.
Écoutez-les, et vous verrez. Et si vous ne voyez pas pourquoi ils sont condamnables, eh bien c'est précisément pour revenir au premier sujet de conversation aujourd'hui, parce que dans l'ambiguïté, dans l'absence de clarté, eh bien se propagent tous les discours de haine, et en particulier les discours de haine antisémites. Et moi, je vais vous dire pourquoi nous avons fait la reconnaissance de l'État de Palestine l'année dernière. Parce que nous refusons que le camp de la guerre ne l'emporte sur le camp de la paix. Et nous refusons en Israël que les extrémistes puissent nier au peuple palestinien le droit d'avoir la dignité de se tenir debout sur la terre dans laquelle plonge ses racines. Nous condamnons les décisions du gouvernement israélien, les décisions récentes visant à étendre son contrôle en Cisjordanie.
Mais
nous refusons aussi,
les
extrémistes de l'autre côté, ceux du Hamas et de leur soutien, qui nient à Israël le droit à l'existence et à la sécurité. Et donc moi, pardon, mais ayant contribué aux côtés du président de la République à faire prendre à la France une décision capitale de politique étrangère, tous les discours de haine, d'où qu'ils viennent, prenant parti d'un côté ou de l'autre,
je les condamne. Ça veut dire que vous renouvelez votre appel à la démission de Madame
Albanese.
Et qu'est-ce qui va se passer lundi, justement, à cette réunion?
Il y a une session du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Est-ce que vous
pouvez demander... Au cours de laquelle la France réaffirmera évidemment son attachement viscéral, non seulement aux Nations Unies, mais aussi au Comité des droits de l'homme. Aussi au Comité des droits de l'homme. Qu'est-ce qui fait le Comité des droits de l'homme? Parce qu'on parle beaucoup de choses, on ne sait pas. Comité des droits de l'homme, il mène des enquêtes. Et sur la base de ces enquêtes, on peut faire la chasse à l'impunité. Et c'est le cas notamment de la Syrie. Vous vous souvenez que, grâce à l'exfiltration par la France de César, 55 000 photographies ont pu être, en quelque sorte, rassemblées par le Comité des droits de l'homme
pour que des enquêtes... Mais alors, sur Francesca Albanese, demain, vous demandez sa démission, demain, jeudi, qu'est-ce qui se passe quand ?
Vous savez, les rapporteurs spéciaux sont des experts indépendants qui sont nommés pour 3 ans et qui sont irrévocables pendant leur mandat. Lorsque la question de son renouvellement a été posée, j'ai dit que nous n'étions pas favorables, j'ai regretté qu'elle le soit. Ce que j'ai dit à plusieurs reprises, c'est pas merci de bien vouloir faire démissionner madame. Je sais qu'elle n'est pas démissionnable. Mais ce que j'ai dit, c'est que la succession des provocations dans un contexte où nous essayons de tracer un chemin vers la paix devrait l'amener elle-même à avoir la dignité de démissionner de ses fonctions.
Elle a dit qu'elle ne démissionnerait pas.
Bon.
On ouvre un autre chapitre de l'actualité, Jean-Noël Barrot, l'affaire Epstein avec Alix Bouyaguet.
Le nom du diplomate François Hédan apparaît près de 200 fois, Fabrice Hédan, près de 200 fois dans les documents Epstein. Entre 2010 et 2017, il était secrétaire des affaires étrangères pour l'Orient. Il aurait transmis à l'Américain des informations diplomatiques sensibles. De quelle nature ?
Je rembobine. Comme vous, j'ai sans doute, et comme beaucoup de Français, j'ai été effaré d'apprendre ce que j'ai appris. Et quand je l'ai appris, j'ai immédiatement pris 3 décisions. La première, c'est de saisir la justice, parce qu'il faut que la justice puisse faire toute la lumière sur cette affaire et qu'elle dispose de moyens dont je ne dispose pas. J'ai lancé une enquête administrative, donc une enquête interne, qui est en cours, avec un certain nombre d'auditions.
Il n'y a pas de retour à ce stade-là sur cette enquête.
Elle n'est pas terminée. Et des auditions ont eu lieu tout au long de cette semaine. D'autres ont eu lieu la
semaine
prochaine.
Vous êtes un peu au courant de ces auditions.
L'enquête est en cours. Et j'ai lancé une procédure disciplinaire à l'encontre de M. Fabrice Hédan, qui elle aussi est en cours. Donc il est un peu tôt, d'abord pour vous livrer toutes les conclusions, savoir un peu comment les responsabilités peuvent être établies. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a ces 3 procédures en cours et que on ira jusqu'au bout et qu'on veillera évidemment à ce que les responsabilités puissent être établies. Vous me posez une question sur...
Les informations diplomatiques, qu'est-ce qu'il a transmis concrètement à Jeffrey Epstein ?
Je ne peux pas vous répondre exactement, et il faut bien comprendre que bon, ça va concerner sans doute cette affaire-là, mais ça va concerner aussi beaucoup d'autres affaires de cette nébuleuse Epstein.
Il y a d'autres les diplomates qui sont concernés ?
Non, je vous parle du reste. Mm. Mais les informations, chacun le sait, sont extrêmement parcellaires. Donc, y a des documents qui, soit n'ont pas encore été rendus publics, d'autres qui... Bon. Donc, je ne sais pas vous dire à ce stade la manière dont ce caractère parcellaire de l'information va influer sur le résultat des enquêtes. Ce que je peux vous dire, c'est que ceux qui en ont la charge, pour ce qui concerne mon ministère, la justice fait son travail indépendamment, sont déterminés à faire toute la lumière et aller jusqu'au bout du travail.
La dernière question de cette séquence d'actualité. Vous êtes le ministre des Affaires étrangères, donc on fait le tour des grands dossiers internationaux. Il y a eu une visite du ministre de l'Intérieur en Algérie, une visite de deux jours. Est-ce que cette visite a apporté des informations nouvelles au sujet du journaliste Christophe Glaize qui purge une peine de 7 ans de prison en Algérie pour, guillemets, apologie du terrorisme ?
Nous demandons la libération immédiate et inconditionnelle de Christophe Glaize et des messages ont été passés.
Ça n'a pas progressé pendant cette visite.
En ce sens. D'ailleurs, nous ne sommes pas les seuls à passer des messages et je veux une nouvelle fois, comme j'ai déjà pu le faire publiquement, saluer l'attitude très digne de la famille, mais aussi la mobilisation de certaines figures du monde du sport. Qui compte quand elle s'exprime. Ensuite, ce déplacement, il avait vocation à obtenir un réengagement des autorités algériennes sur des sujets qui sont très importants pour nous, sécuritaires et migratoires. Le dialogue a été apaisé. Maintenant, il faut qu'il se traduise en actes. Nous verrons bien.
Va-t-on vers une renégociation des accords de 1968 qui ont été évoqués récemment par Sébastien Lecornu, le Premier ministre ?
Oui, c'est notre souhait. Et c'est pas
Mais
nouveau.
Est-ce que ça progresse ou pas ?
C'est notre souhait que ça progresse.
Jean-Noël Barrot, vous êtes l'invité de Questions Politiques et on tente encore de mieux vous connaître aujourd'hui.
France Inter. Alexandra Ben Saïd. Questions Politiques.
Avec Alix Bouyagué qui veut vous faire entendre cette archive.
Dans ce temple des Nations Unies, nous sommes les gardiens d'un idéal. Nous sommes les gardiens d'une conscience. La lourde responsabilité et l'immense honneur qui sont les nôtres doivent nous conduire à donner la priorité au désarmement dans la paix. Et c'est un vieux pays, la France d'un vieux continent comme le mien, l'Europe, qui vous le dit aujourd'hui.
Jean-Noël Barrot, vous avez d'illustres prédécesseurs au Quai d'Orsay. On vient d'entendre Dominique de Villepin, c'était le 14 février 2003 à l'ONU, un discours pour dire non à la guerre en Irak, un discours qui a marqué les esprits bien au-delà des frontières françaises. On se souvient aussi d'Hubert Védrine avec son franc-parler, son indépendance, sa portée médiatique. Et vous, quel est votre style, votre marque de fabrique et même votre référence ?
Ce que je peux vous dire, en tout cas, c'est que dans les fonctions qui m'ont été confiées par le président de la République, il y a une décision qui a été préparée pendant plus d'un an et qui aura très largement structuré mon action au sein du ministère des Affaires étrangères, qui est une décision capitale de politique étrangère, qui est la reconnaissance de l'État de Palestine.
Mais ce n'est pas vous qui avez fait le discours aux Nations Unies ?
J'en ai fait un, puisque la reconnaissance par la France de l'État de Palestine ne s'est pas inscrite dans un vide. Elle s'est appuyée sur une déclaration, la déclaration de New York, qui a été conçue au mois de juillet dernier, qui a été adoptée à l'écrasante majorité des Nations Unies et que j'ai portée, et qui, pour la première fois post 7 octobre, qui a été quand même un événement très traumatique dans la région, mais au-delà, ramenait, si vous voulez, ensemble des objectifs qui, jusqu'à présent, ou des parties prenantes qui s'affrontaient. Et cette vision-là d'équilibre, de rejet des discours de haine, je crois que c'est d'où qu'ils viennent d'ailleurs, sans prendre parti, sans mettre en concurrence les souffrances, je crois que c'est ce que j'ai apporté dans ce processus qui nous a conduit.
Je vois sur le fond, mais là je vous parle de votre style. Vous avez un référent en tête, on a entendu Dominique
Bien
de Villepin, je vous
Bien
ai
sûr.
Parlé d'Hubert Védrine.
Mais mon histoire familiale et politique explique bien des prises de position qui sont les miennes, notamment sur ce conflit-là.
La diplomatie...
Et cette histoire, c'est celle des pères fondateurs de l'Europe qui ont surmonté le confort, la facilité du ressentiment pour avoir la hauteur de vue de proposer aux anciens ennemis des voies de coopération. C'est celle des justes et des résistants qui ont fait objection de conscience, qui ont objecté ou opposé à la violence qu'on voulait leur imposer, les armes de l'esprit, quoi. Et c'est ça qui m'inspire au quotidien.
Vous êtes un jeune ministre, puisque vous avez 42 ans, vous vantez votre proximité avec Emmanuel Macron, il paraît que vous l'avez même au téléphone à toute heure du jour et de la nuit, mais vous êtes aussi dans l'ombre quelque part d'un président qui est hyperactif et beaucoup sur ces dossiers-là. Est-ce que c'est possible d'exister aux côtés d'Emmanuel Macron ?
Ça, c'est aux autres qu'il faut le demander, parce que moi, je ne fais pas ça pour exister. Je me suis engagé pleinement sur le sujet de la Palestine que j'évoquais là. Je m'engage aussi pleinement pour la transformation, la modernisation de mon ministère qui en a besoin, qui, avec ses 14 000 agents, fait un travail remarquable, mais qui doit continuer de se réformer, de s'armer face aux défis. Et puis, je crois qu'on en a un de défi qui est considérable et qui est devant nous et qui, en fait, est sous-jacent à toutes les discussions que nous avons eues aujourd'hui, qui est l'Europe. Quelle Europe ? Et on va avoir la discussion dans quelques instants. En 2027, quelle Europe ?
Juste pour conclure, vous êtes aussi un ambitieux politique. Vous entretenez une relation de filiation politique avec l'ex-premier ministre François Bayrou. Il se dit que vous rêvez de prendre sa suite à la tête du Modem. Est-ce que c'est tabou d'évoquer sa succession ?
Non. Je ne suis pas un ambitieux, je suis un militant. Un militant de la démocratie, un militant de la justice, un militant aussi de l'espérance. C'est un certain nombre d'engagements, de causes que j'ai défendues et que je défends encore et que je continuerai de défendre aux côtés de François Bayrou.
Mais vous dites qu'il faut aussi un centriste candidat à la présidentielle en 2027. François Bayrou, il aura 75 ans. Est-ce que vous pouvez être ce candidat-là à la présidentielle ?
Je crois que la période de réserve pour les élections municipales s'est ouverte aujourd'hui, donc je vais répondre avec un tout petit peu de retenue. Mais oui, ce grand courant de la vie politique française doit être représenté dans ses idées, dans ses femmes et dans ses hommes à l'élection présidentielle de 2027. Il a des réponses à apporter. Mais non ! Des idées et la force des convictions.
Jean-Noël Barrot, vous êtes venu avec votre carte blanche militante. Sur quel thème voulez-vous braquer les projecteurs ce midi ?
Bien sur les réseaux sociaux, j'en ai dit un mot tout à l'heure. Mais je me suis réjoui que lors de son déplacement en Inde, le président de la République ait obtenu du Premier ministre indien qu'il se joigne à cet effort qui maintenant rassemble plusieurs dizaines de pays pour restreindre l'accès des plus jeunes aux réseaux sociaux. Je me félicite que cette prise de conscience nationale, internationale, progresse. Maintenant, il va falloir passer aux actes et j'entends déjà un certain nombre qui disent que ça sera impossible parce que les plateformes sont trop puissantes,
parce que
etc.
Les États-Unis ne veulent pas de gouvernance mondiale.
Eh bien, moi, je le dis que c'est possible. Et je l'ai démontré dans mes fonctions précédentes, lorsque j'étais chargé du numérique, en bloquant les sites pornographiques qui ne vérifiaient pas l'âge de leurs utilisateurs. Et un an après, puisqu'on peut faire le bilan, bien les résultats sont là. La fréquentation, l'exposition des mineurs dans notre pays aux sites pornographiques a baissé de moitié. Donc c'est possible.
Jean-Noël Barrot, nous allons parler de France 2027, l'Europe, la place de la France dans le monde. Mais d'abord, je voudrais vous faire réagir à cet urgent qui vient de tomber au sujet de la Russie. La Hongrie va bloquer le 20e paquet européen de sanctions contre la Russie. C'est ce qu'on apprend de Budapest. Quelle est votre réaction ?
Que ce sont des blocages qu'on doit pouvoir surmonter, comme on l'a fait par le passé, puisque ça fait 20 fois qu'on y parvient.
Donc, pas d'inquiétude sur le 20e paquet.
Je vais sans doute prendre connaissance des raisons invoquées et consacrer une partie de mon après-midi à tenter de lever ce blocage.
Allez, Françoise Fressoz, une question qui sera au cœur du débat public et de la présidentielle dans 2 ans.
La question de la place de la France dans le monde, autrement dit, sa capacité à porter une voix singulière, ce qui a toujours été sa vocation depuis le général de Gaulle. Alors on voit Emmanuel Macron qui se démultiplie sur tous les fronts, l'Europe, l'Ukraine, la Palestine. Il cherche de nouveaux partenaires avec son récent voyage en Inde. Il se bat pour contrer le nouvel ordre mondial que tente d'imposer Donald Trump, mais concrètement, les résultats apparaissent minces. Et ce qui est frappant aussi, c'est le rapprochement aujourd'hui entre l'Allemagne l'Espagne et l'Italie, leur difficulté à se couper des États-Unis et l'idée au fond de dire en 2027 il n'y aura plus d'Emmanuel Macron, donc on se débrouille sans lui. Est-ce que la France est déjà enterrée ?
D'abord, je vais dire un mot pour défendre ma boutique, parce que dire que la diplomatie française conduite, que nous conduisons n'a aucun effet, c'est quand même un peu sévère pour les diplomates français.
Je dis pas que ça n'a pas d'effet.
Non, mais regardez, bien sûr que chacun est lucide, chacun voit bien que le grand défi géopolitique de notre siècle, c'est la rivalité croissante entre les États-Unis et la Chine, l'un voulant rattraper l'autre, l'autre voulant éviter que cela ne se produise. Et que dans cette équation, la place de l'Europe et la place de la France est posée. Mais regardez ce que nous avons fait l'année dernière. On a parlé de la reconnaissance de la Palestine. Je pourrais parler aussi de ce que nous avons fait à Nice, où nous avons organisé la plus grande manifestation jamais consacrée à la préservation des océans et obtenu en 2 ans la ratification ou l'entrée en vigueur d'un traité pour la protection de l'océan, ou plus précisément de la haute mer, c'est-à-dire toute la partie de l'océan qui ne dépend pas des juridictions nationales. Aucun pays du monde, je dirais de notre taille comparable, ne peut se prévaloir de tels succès diplomatiques. Maintenant pour la suite, 2027. Quelle sera la place de la France dans l'ordre mondial ? Eh bien, ce sont les Français qui en décideront.
Et ça va ils vont décider en fonction de quoi ? Peut-être de l'état des déficits, non ?
D'abord, je le disais, la donne principale, c'est la conflictualité, la rivalité entre les États-Unis et la Chine, qui pourrait à un moment ou à un autre se transformer en une conflictualité, dans laquelle nous pourrions d'ailleurs, selon les choix que nous ferons en Europe, etc., être entraînés. Et dans cette équation qui semble déjà résolue, il y a en réalité une variable inconnue, et cette variable inconnue, c'est l'Europe. Je n'y reviens pas, on en a beaucoup parlé, l'indépendance, etc. Mais pour que l'Europe soit à la maille pour changer l'équation géopolitique mondiale, eh bien, il faut que la France soit à la hauteur de son histoire. Et donc, le choix que feront les Français en 2027 sera essentiel. Pourquoi ? Parce que notre capacité à influer en Europe dépend directement et dépendra directement de notre force militaire, diplomatique, économique, budgétaire et morale.
Parce que quand on voit dans le conflit franco-allemand qu'on voit surgir, il y a beaucoup cette question de la France n'arrive pas à réduire ses déficits, la France dépense beaucoup trop, la France se cache derrière l'Europe pour emprunter toujours. Vous dites 2027, il va falloir un sacré plan de rigueur.
Je dis en tout cas qu'il faudra choisir. Allons-nous nous laisser aller à la facilité, de projets qui nous seront proposés par les deux extrêmes d'ailleurs, projets de déclin qui diront pas leur nom, mais qui seront des projets de vassalisation à ces grandes puissances, États-Unis, Chine, je ne mets pas la Russie dans les grandes puissances puisque je vous ai dit qu'elle s'était totalement discréditée, mais on voit un petit peu l'idée. Ou alors, allons-nous faire le choix de la conquête, du courage qui emporte des conséquences sur l'organisation des pouvoirs dans notre pays, mais aussi sur le rétablissement des finances publiques et qui permettront à la France de conserver la place qui est la sienne au premier rang. C'est au fond ça. Le projet des conservateurs, des clinistes, ou un projet de conquête pour notre pays.
La troisième voie, c'est avec quel partenaire ? Alors, on a vu qu'il y avait eu ce voyage en Inde, mais on voit l'Inde, au fond, qui multiplie les gestes, États-Unis, Chine, France. C'est quoi nos partenaires fiables pour incarner une troisième voie ?
Pour incarner une troisième fois, il faut d'abord s'interroger sur nous-mêmes. Je le disais, la variable inconnue de cette équation qui semble inéluctable et qui, comme Sparte et Athènes dans la guerre du Péloponnèse ont fini par s'affronter, semble nous condamner à un affrontement entre la Chine et les États-Unis. Donc l'Europe peut changer la donne si elle ouvre une troisième voie. Mais pour qu'elle ouvre une troisième voie, il faut d'abord qu'elle se lève, qu'elle redresse la tête et qu'elle se défasse de ses servitudes et qu'elle se renforce. Et une fois qu'elle l'aura fait, une fois qu'elle pourra parler de manière crédible et qu'elle sera un acteur dominant sur un certain nombre de sujets qui touchent à notre voisinage, on a parlé de l'Ukraine, eh bien alors, je peux vous garantir que la majorité des pays du monde s'engouffreront dans cette troisième voie parce qu'eux-mêmes n'ont aucune envie de devoir choisir un camp. Ils entendent rester libres. Et donc, si l'Europe montre la voie, alors on peut espérer d'abord avec l'Asie du Sud-Est, avec cette organisation qui s'appelle le CPTPP, pardon pour l'acronyme. Oula. Eh oui, mais c'est en gros tous les pays du Pacifique, ça va jusqu'au Canada. Eux, ils se disent, l'Europe, eh ben, c'est notre partenaire privilégié, mais il faut encore que l'Europe... Bon, l'Afrique voit bien avec quel cynisme elle est traitée par les deux grandes superpuissances de ce monde. Et quant à l'Amérique latine, elle voit bien aussi que si rien n'est fait, elle va se retrouver en quelque sorte vassalisée dans un hémisphère dont elle n'a pas la maîtrise du destin. Donc, Toutes ces régions du monde ont envie que l'Europe se lève, redresse la tête, et c'est notre responsabilité.
Jean-Noël Barrot, ce sont les dernières minutes de l'émission, on se quitte. C'est le principe avec un vrai faux, et vous connaissez la règle, alors je démarre. Si vous étiez député mardi, vous voteriez contre le droit à l'aide à mourir, vrai ou faux ?
Vrai.
Si le remaniement est repoussé, c'est parce que Rachida Dati veut rester encore un peu au gouvernement, vrai ou faux ?
Faux sans doute, mais c'est pas moi qui décide.
La France insoumise ne fait plus partie de l'arc républicain, vrai ou faux ?
Je ne sais pas ce que c'est que l'arc républicain.
Vous jouez sur les mots.
Oui,
vrai aussi.
Les comportements de la France insoumise s'inscrivent à l'Assemblée nationale, à l'extérieur du respect des institutions républicaines.
Il ne faut pas renvoyer dos à dos le RN et LFI, vrai ou faux ?
Faux.
Il n'y a pas des dizaines...
Il ne faut pas renvoyer dos à dos LFI et le RN. Donc vrai, à votre affirmation.
Il n'y a pas des dizaines de milliers de Français fortunés qui ne paient aucun impôt sur le revenu, mais il y en a bien 13 335 et finalement on a des documents à Bercy qui le montrent. Vrai ou faux ?
J'ai l'impression que c'est vrai.
Jean-Noël Barrot, merci d'avoir répondu à nos questions politiques et merci à la grande équipe Fabienne Lemoal, Marius Serres et nos équipes du son et de l'image. Auditeurs, téléspectateurs, nous vous souhaitons un excellent week-end. On se retrouve la semaine prochaine.